Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Kiaose, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Sasso Ayako. On parlera ensuite de trois mangas des éditions Kaze avec la présentation du manga Ultimo, la chronique du volume 7 de Nabari et la chronique du volume 4 de Sprite. On aura ensuite un point sur les sorties manga de la semaine. On continuera à parler culture avec les secrets du saké. On aura également une petite actualité pour les fans de Dragon Ball Z. Et on finira avec une news musicale concernant le groupe Omega X. On commence donc avec la première chanson de l'émission, c'est Mom de Zetao. Et on reviendra juste après pour parler de l'artiste Sasso Ayako.
永远记住你的手妈妈，思念里我不在，思念里我挂念着你，你不在，不久的将来我一定会成功，看你骄傲的笑容，带你环游世界，我们不再，看谁的那些和难过的那些，非我做的那些，妈妈幸福的那些，所有的一切刻在我的生命里，成为回忆，即使时间会一直流逝，也不会放弃。 你不会那些错过的美好，不忍心再看着它挥手告别的模样。无法想象你离开我的时候，没有你在的地方下都不算吧。我会牵住你的手，妈妈。永远牵住你的手，妈妈。无法想象你离开我的时候，没有你在的地方下都不算吧。我会牵住你的手，妈妈。 永远牵住你的手，妈妈。如果你听到，别哭泣，好吗？我只想要看到你的 smile。去哪里都想陪着你去你想去的地方，就像妈妈小时候陪着我一样。把一切都放弃给了我，给了我。也许在全世界所有人中只有你为我付出的最多，牺牲的最多。不过我一场才不会让自己堕落。美丽的妈妈，现在由我陪你。 看你每天笑得就像伤害一样开心吧，知道吗？如果你不在，无比想念的我。Mom, let me love you， 不再让你失望了。无法想象你离开我的时候，没有你在的地方下都不算吧。我会牵住你的手，妈妈。永远牵住你的手，妈妈。无法想象你离开我的时候，没有你在的地方下都不算吧。我会牵住你的手，妈妈。 永远牵住你的手，妈妈。I don't know what to say no more。我被妈妈错过什么我都不知道。有时你对我的爱我没有理解，你对我的关心被我的烦躁替代，可你总是面带微笑。就算全妈妈说不要跟着我走，Let go home，So what，So what？但是我偷偷藏在角落，我感受到你心在流泪，Sorry， 忙着的再不会让你难过了，我会永远 love you mom。 无法想象你离开我的时候，没有你在的地方，假的不算吧。我会牵住你的手，妈妈。永远牵住你的手，妈妈。无法想象你离开我的时候，没有你在的地方，假的不算吧。我会牵住你的手，妈妈。永远牵住你的手，妈妈。
Donc c'était Zetao avec la chanson Mom. On passe maintenant à la présentation de l'artiste Sasso Ayako, aussi connu sous les pseudonymes Sampling Master Aya et Aya. Donc c'est une arrangeuse musicale, compositrice et ingénieure du son japonaise qui est née le 5 mars 1967, elle est donc âgée de 55 ans, et elle est toujours en activité. Elle fait également partie du groupe Super Sweep. Ayako Sasso est née dans la préfecture de Miyazaki. Donc c'est une compositrice de musique de jeux vidéo. Elle est surtout connue pour être la collègue fidèle du compositeur Shinji Osori. Elle est rarement seule à la réalisation des bandes-sons, à l'exception de Rolling Thunder 2 en 90. Ayako Sasso commence à jouer à l'âge de 7 ans. Passionnée par la musique, elle intègre quelques groupes musicaux lorsqu'elle est étudiante. En 1987, elle gagne le prix d'argent d'un concours de musique organisé par Yamaha. Particulièrement intéressée par les jeux vidéo, elle intègre Namco à la fin des années 80 et fera la connaissance de Shinji Osoe. Avec lui, elle créera la bande-son de divers jeux tels que Rolling Thunder 2, Galaxian 3 et la série des Ridge Racer. En 1995, elle quitte Namco pour rejoindre Akira. En 2000, Shinji Osoe crée Super Sweep et c'est tout naturellement qu'Ayako Sasso rejoint la société de son collègue. Elle continue aujourd'hui encore à composer des bandes-sons pour des jeux, mais se concentre principalement sur la création d'effets sonores. Les premiers travaux musicaux d'Ayako Sasso sont très influencés par le jazz. Dans les années 90, la musique techno est très présente dans son style, même si elle sait varier les styles, avec notamment du rock, de la trance, de la dance, etc. Ses influences musicales sont la dance music, Fumitaka Anzai, John Williams, Alfred Reed, Duran Duran, Shack Attack, Jimmy Smith, Yellow Magic Orchestra, Cassiopeia, Square, Michael Jackson, Glenn Miller Orchestra, Prodigy, Holy Noise et les groupes indépendants des années 80. Donc côté discographie, elle a sorti 3 albums. Le premier, c'est GTR qui est sorti en décembre 93. Et le dernier, Sampling Master Presents Yulena's Tsunashima Fake Discotheque in Tsunashima Volume 1, qui est sorti le 6 août 99. Elle a également participé à 26 compilations. La première, c'est Tours, qui est sorti le 7 août 94. Et la dernière, Nano Sweep 25, qui est sorti le 29 décembre 2017. Elle a aussi participé à 104 OST, donc je vais pas toutes les dire, hein, mais on a notamment Rolling Thunder 2 en 91. Namco Game Sound Express Volume 6 en 92, Namco Video Game Graffiti Volume 9 en 93, XD Namco Game Sound Express en 94, Mac Breaker Namco Game Sound Express Volume 19 en 95, Tekken 2 en volume 1 en 96, Street Fighter X en 97, Street Fighter X2 en 98, Fighting Liar en 99, Street Fighter EX3 en 2000, Technitix en 2001, Beatmania en 2002, Final Fantasy Tactics Advance en 2003, F-Zero GX AX en 2004, Dodonpachi Daijo and Espagaluda qui est sorti en 2005, on a aussi Monster Kingdom Jewel Summoner en 2006, Final Fantasy Tactics Advance 2 en 2007, Omega 5 en 2008, Tekken 6 en 2009, Carnage Earth Hexa en 2010, Ridge Racer 3D Direct Audio en 2011, Mega Man Network Transmission en 2012, Tekken Tag Tournament 2 en 2013, Keroro Popstar en 2014, Okami Enkyoikushu Volume 3 Lounge en 2015, Tekken 7 en 2016, Ridge Racer en 2017, Fighting X Layer en 2018 et Ridge Racer Type 4 le 20e anniversaire en 2019. Pour finir, elle a également participé à Sidujin. Le premier, c'est Ridge Racer Respect qui est sorti le 25 décembre 2006 et le dernier, Ridge Racer Respect Recreation qui est sorti le 31 décembre 2011. On va pouvoir s'écouter tout de suite deux musiques de Sasso Ayako. La première, c'est une musique extraite de l'OST de Tekken 2 qu'elle a arrangée. C'est Silent Assassin Cold Head Mix. Et on reviendra juste après pour la présentation du manga Ultimo. We'll be right back.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Donc c'était la musique choisie, une musique extraite de l'OST de l'anime No Game No Life qui a été composée et arrangée par Sasso Ayako. On passe maintenant à la présentation du manga Ultimo du titre original Karakuri Doji Ultimo. Donc c'est un shonen de genre aventure fantastique qui a été écrit par Stan Lee, dessiné par Takei Hiroyuki et prépublié dans le Jump SQ. La version japonaise est parue en 2009 aux éditions Shueisha avec un total de 12 volumes qui terminent la série. Et la version française est parue le 28 octobre 2010 aux éditions Kaze dans leur collection Shonen Up avec également 12 tomes. Ultimo n'est malheureusement plus commercialisé mais vous pouviez le trouver auparavant dans le commerce au prix de 6,99€. L'âge conseillé pour le lire est de 12 ans et plus et il n'existe pas d'adaptation en animé. Donc le résumé de cette série, l'histoire débute au XIIe siècle à Kyoto. Un vieil homme du nom de Dunstan se fait attaquer par des brigands alors qu'il transportait deux boîtes. Voulant se venger des nobles qui les ont dépouillés de leurs biens, les brigands menés par Yamato tentent de s'emparer de la marchandise qui devait être livrée à ces mêmes nobles. Ils sont alors surpris de découvrir qu'à l'intérieur des boîtes se trouvent des pantins. Yamato et ses hommes apprennent qu'il ne s'agit pas de simples pantins, ils sont ce qu'on appelle des Karakuri Doji, représentant le mal et le bien ultime. Les deux Karakuri Doji, Vice et Ultimo, se réveillent alors et s'affrontent, Ultimo représentant le bien, prenant ainsi pour maître Yamato. 9 siècles plus tard, à Tokyo West, un certain Yamato Agari, accompagné d'un ami, découvre par hasard chez un antiquaire un mystérieux pantin en vitrine. La seule chose qui lui vient à l'esprit est un nom sans savoir pourquoi, Ultimo. Cette découverte va changer le cours de la vie de Yamato et l'entraîner dans une drôle d'aventure. Voilà, donc je rappelle que Ultimo est paru en 12 tomes aux éditions Kazé, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. C'est Summer Days de 0DB et on reviendra juste après pour parler du volume 7 de Nabari. Donc c'était 0DB avec la chanson Summer Days. On passe maintenant à la chronique du volume 7 de Nabari. Je rappelle que c'est un shonen de genre fantastique qui a été écrit par Kamatani Yuki et prépublié dans le G-Fantasy. La version japonaise est parue aux éditions Square Enix avec un total de 14 volumes qui termine la série, et la version française est parue aux éditions Asuka et Kaze avec également 14 tomes. Ce volume 7 est sorti le 10 décembre 2009 au prix de 7,99€. Donc le résumé de ce tome, dans les sombres couloirs de l'académie Alia, les Kairoshu, les ninjas de Banten et les jeunes Koga, ainsi que leur professeur, se battent à mort pour mettre la main sur le Daya et son pouvoir tabou de guérison universelle. Alors que la situation paraît désespérée pour Miharu et Yoite, blessés et encerclés, le jeune garçon sent soudain remonter à la surface de sa conscience la fée du Shinra Bansho. Donc après un volume précédent mitigé, il était difficile d'être pleinement emballé par le début de cet arc autour du Daya. La dimension psychologique connue précédemment ne trouvait pas place, l'Irix entre les différents personnages était en deçà de l'accoutumée, seul le changement de camp de Miharu représentait un véritable intérêt. Heureusement, ce tome 7 se montre bien plus riche, truffé de petites surprises et avec un rythme qui s'avère effréné. Autant dire qu'il est dur de s'y ennuyer. Le complot entourant l'académie Alia, très flou dans le tome précédent, dévoile ici tout son potentiel, et c'est bien cette intrigue qui donne à cette partie de l'histoire sa cadence. Tout au long du tome, nous allons de rebondissement en rebondissement, ce qui rend l'intrigue des plus passionnantes. Les retournements de situation ont le mérite d'être inattendus, quoique tirés par les cheveux. Afin de rendre ceci cohérent, la mangaka décide de nous faire part de quelques révélations bienvenues qui viennent développer un personnage dont on attendait qu'une seule chose, qu'il nous livre tous ses secrets. Dans le genre divertissement effréné, autant dire que nous sommes servis et d'excellente manière. Et si cela nous permet de bénéficier de quelques révélations sur certains mystères de la série, on ne peut qu'approuver. Aussi, le déroulement de cet arc permet d'étoffer l'univers de Nabari, notamment concernant l'implication du gouvernement vis-à-vis du monde ninja. La mangaka aurait-elle de plus grandes ambitions pour son récit ? On l'espère, car avec ce tome 7, nous n'arrivons qu'à la moitié de l'histoire. Mais afin que son arc ne ressemble pas en tout point au précédent, Yuki Kamatani change un peu la recette de cette partie de l'intrigue. L'arc dernier faisait la part belle à la psychologie des personnages, un aspect que nous retrouvons ici dans une mesure amoindrie. À la place, l'auteur préfère appuyer sur les sentiments des personnages présents, même secondaires. Tout est assez bien maîtrisé et donne de la consistance au ninja de ce tome, tout en octroyant à ce volume une dimension dramatique bienvenue. Le plus intéressant du tome réside dans la partie finale des plus surprenantes. Le personnage de Koichi Aizawa ne se sera jamais révélé aussi énigmatique, et nous en attendons ainsi beaucoup de lui dans les volumes à venir. Au final, nous avons là un bon tome qui aura permis à l'arc du Daya de décoller comme il se doit. L'auteur est parvenu à fournir une intrigue intéressante tout en valorisant certaines clés de la série à travers un arc qui fait grandement avancer l'histoire. Maintenant, il ne reste plus à Miharu que le rouleau de Banten à récupérer, tandis que l'état de Yoite est de plus en plus préoccupant. La série devrait atteindre un nouveau stade avec le prochain volume. Voilà, donc je rappelle que la série Nabari est parue en 14 tomes aux éditions Kaze. On va s'écouter tout de suite le premier ending de l'anime Nabari no O, c'est Ikari, interprété par Elisa, et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine.
Shaking
Donc c'était Elisa avec la chanson Ikari qui est servie de premier ending pour l'anime Nabari no O. On passe maintenant aux sorties de manga de la semaine, donc on aura des sorties mercredi 9 novembre avec chez Delcourt Tonkam le volume 3 de 86 qui sera le dernier tome de la série, le volume 5 de Darling in the Franxx, les volumes 26 et 27 de Fight Girl en partenariat avec les éditions Akata, le volume 8 de L'Homme qui tua Nobunaga qui sera le dernier tome de la série, le volume 2 de l'édition Prestige de Phoenix, l'Oiseau de Feu, et le volume 1 de Sorcières d'un autre monde. Aux éditions Veritoon, on aura la sortie du volume 1 de A Thunder Heart, Comment je suis devenue la servante du Duc, le volume 3 de Dimensional Mercenary, et on aura le volume 8 de Solo Leveling, ainsi que des coffrets donc réunissant les volumes 1 à 3 et 4 à 6. Aux éditions Panini, on aura la sortie des volumes 1 et 2 de Banana Fish réunis dans un coffret collector, donc c'est la réédition de 2021. On aura également d'autres coffrets avec Demon Slayer, donc un coffret avec les volumes 1 à 6, ensuite 7 à 12, ensuite 13 à 18 et 19 à 23. On aura le coffret avec les volumes 1 à 3 de Mars Red et le volume 19 de Sido, la réédition 2021. Aux éditions Doki Doki, on aura la sortie du volume 19 de Battle Game in 5 Seconds, les volumes 1 et 2 du Cœur et du Devoir, le volume 2 qui sera donc le dernier tome de cette série. Vous pourrez retrouver donc ces deux tomes séparés, ou si vous préférez directement acheter les deux, vous avez un coffret qui sera disponible avec les volumes 1 et 2. On aura également la sortie du volume 9 de Talentless, le volume 6 de The Alexis Empire Chronicle, et le volume 3 de Yasei, No Last Boss. Aux éditions Nazca, on aura la sortie du volume 1 de Funeral Concerto, le volume 13 de Soul Land et le volume 18 de Tales of Demons and Gods. Aux éditions Pika, on aura la sortie du volume 4 de Komi Cherche ses mots, le volume 4 de l'édition couleur de The Quintessential Quintuplets, le volume 10 de Toilet Bound Anna-Cocoon et le volume 1 de Witch's War. Et donc, aux éditions Casterman, on aura la sortie du volume 8 du Vieil Homme et son Chat et le volume 1 de l'édition 2022 de Quartier Lointain. On aura ensuite d'autres sorties pour jeudi 10 novembre avec chez Kurokawa le volume 9 de l'édition révisée de Arsène Lupin, le volume 6 de Dans l'ombre de Crimi, le volume 14 de Kemono Incidents, le volume 17 des Héros de la Galaxie, le volume 20 de Moi quand je me réincarne en Slim, le volume 2 de Nier Automata Opération Pearl Harbor, le volume 5 de Oshinoko, le volume 6 de Père Fouettard Corporation, les volumes 14 et 15 de la nouvelle édition de Satan 666, le volume 15 de Silver Wolf Blood Bone, le volume 16 de The Heroic Legend of Arslan et le volume 26 de Vinland Saga. Aux éditions Kana, on aura la sortie du volume 15 de Boruto Naruto Next Generations, le volume 7 de Bucket List of the Dead, le volume 7 de Comme les autres qui sera le dernier tome de la série, et le volume 5 de Naruto, l'édition Hokage. Aux éditions Noeve Crafts, on aura la sortie du volume 3 de Copelion, le volume 3 de Elegant Yokai Apartment Life, le volume 3 de Ozuki le Stoïque et le volume 2 de Scum Swish. Aux éditions Kiun, on aura la sortie du coffret de Free RN avec les volumes 1 à 3, ainsi que le coffret des Carnets de l'Apothicaire avec également les volumes 1 à 3, et donc c'est l'édition 2022 de ce coffret. Aux éditions Dynamite, on aura la sortie du volume 3 de House of Brutes, qui sera le dernier tome de la série. Aux éditions Akata, on aura le volume 2 de Love Mix-Up. Aux éditions Omake Books, le volume 1 de Mukai. Et le volume 1 de Omega 6, qui sera disponible en édition normale et en édition collector. Et donc, on aura également au Lézard Noir, la sortie du volume 9 de Tokyo Tarareba Girls, qui sera le dernier tome de la série. La dernière sortie de la semaine, ça sera pour vendredi 11 novembre chez Imo avec l'intégrale de Nekojiro Udon. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Seisen de Dio Vachi et on reviendra juste après pour parler culture avec les secrets du saké.
Oh, つか笑える日が来るさ、いつか笑える日が来るから、そんな時に少し
Donc c'était Ziyu Vashi avec la chanson Seisen. On passe maintenant à la partie culture. On va continuer à parler des secrets du saké avec le livre de Siméon Mollard qui est paru aux éditions Iseki Nicho. Donc on va parler du coût du saké. Donc le saké japonais, ce n'est pas donné. En France, on a tendance à le comparer au vin en termes de dégustation, voire à la bière en termes de production. Sur l'aspect économique, le saké souffre dès lors de la comparaison. Mais si le saké japonais se vend au prix du whisky, ce n'est pas par avidité de la part des professionnels du secteur. Actuellement, le tarif est multiplié par 3 entre l'achat au Japon et le prix de vente en France. Donc prenons pour exemple une bouteille qui est vendue 40 euros en France. Donc on va faire un petit peu le détail des coûts. Donc sur les 40 euros pour le tarif public, on a 6,70 euros de TVA, 9 euros de marge détaillant, 2 euros de marge distributeur, 2 euros de marge importateur, 2,46 euros de taxes, douanes et dédouanements. On a ensuite 4,84 euros de transport de la brasserie à la France en conteneur réfrigéré et les 13 euros d'achat au brasseur, qui est donc le prix professionnel. Les marges correspondent à des coefficients qui permettent de couvrir les frais et l'immobilisation de capital. Elles ne correspondent donc pas aux bénéfices nets. Et dans les brasseries à saké, le prix professionnel est généralement de l'ordre de 50% à 70% du prix public. Donc cet exemple fictif correspond à des moyennes qui peuvent varier en fonction des acteurs du marché. Donc avec le développement du marché et sa démocratisation, le tarif final devrait aboutir à terme à une multiplication du prix par 2, donc en France par rapport au prix d'achat au Japon. Voilà, donc sachez qu'après, pour le moment, un saké importé coûte 3 fois plus cher que si vous l'achetiez donc au Japon. Voilà, du coup on continuerait à parler des secrets du saké la semaine prochaine. En attendant, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson. On va s'écouter A to Z de ZZ, qui a servi de 11e ending pour l'anime One Piece, et on viendra juste après pour la chronique du volume 4 de Sprite. c'était ZZ avec la chanson A to Z qui a servi de 11e ending pour l'anime One Piece. On passe maintenant à la chronique du volume 4 de Sprite. Donc je rappelle que c'est un seinen de genre action, science-fiction, surnaturel, thriller qui a été écrit par Ichikawa Yugo et prépublié dans le Big Comic Superior. La version japonaise est parue aux éditions Shogakukan avec un total de 15 volumes qui terminent la série et la version française est parue aux éditions Kaze avec également 15 tomes. Ce volume 4 est sorti le 25 janvier 2012 au prix de 7,99€. Donc le résumé de ce tome, alors qu'une nouvelle vague de temps déferle sur la ville, Sue affirme à ses compagnons qu'elle s'est retrouvée projetée l'espace d'un instant en 2008. Aussi insensé que cela puisse paraître, des mails de son ami d'enfance semblent confirmer ses dires. Mais avant d'avoir pu réfléchir à un moyen de regagner leur époque respective, les naufragés du temps vont subir une trahison qui les exposera à un danger face auquel même femmes et enfants devront prendre les armes. Donc un nouveau tsunami d'eau noire se déverse sur nos héros. Pas le temps de réfléchir, ils courent vite se mettre à l'abri au sommet de l'immeuble qu'ils ont aménagé, sous peine de se faire aspirer par le temps et de se retrouver momifié. C'est une fois sauf que Sue se rend compte qu'elle a reçu sur son téléphone portable des mails de Tetsu, son ami d'enfance resté dans le présent. Ainsi, la jeune fille prend conscience qu'elle s'est réellement retrouvée en 2008, l'espace d'un instant. Ce passage est aussi l'occasion de découvrir Tetsu, un jeune homme refusant de sortir de sa chambre sous peine d'être pris de crise de panique. Le charisme qui entourait Tetsu s'envole malheureusement en même temps que le mystère qui planait autour de lui. Yugo Ishikawa lui donne un caractère typé de japonais reclus, un peu comme on a pu le voir avec l'oncle de Sue. Outre cela, Tetsu a beaucoup de considération pour Sue, qu'il aperçoit comme un ange. Du coup, il essaiera de surmonter ses peurs pour tenter de la trouver. Mais pas le temps de souffler et de réfléchir posément pour Sue et ses amis. En effet, ce quatrième volume de Sprite est sous le signe de l'action. Les habitants du futur se sont décidés à ne plus faire confiance aux voyageurs du temps et à les exterminer, rien que ça. Il ne faut pas trop chercher de raison à cela, on peut y voir la volonté de l'auteur de rajouter quelques scènes d'action et un peu de piquant à son récit. À ce stade de l'histoire, mieux vaut ne plus trop réfléchir et accepter les choses comme elles viennent pour mieux apprécier le récit. Bien heureusement pour les héros, l'attaque des habitants du futur ne se passe pas vraiment comme ils l'avaient espéré, et pour cause, les légions, donc des espèces d'insectes monstrueux, se mêlent à la partie. Du coup, entre les enfants à tête de vieux et les insectes géants, on a un peu l'impression d'assister à la rencontre d'Akira avec Starship Troopers. L'auteur continue à faire des références à la culture populaire japonaise. Ainsi, une fois n'est pas coutume, il met en avant Kappa no Kaikata, son œuvre emblématique, à travers le téléphone portable de Tetsu. Il place aussi une référence au manga Cat Size de Tsukasa Ojo et à des groupes de musique pop des années 70. Ce tome étant marqué par le côté action, les références sont en plus petit nombre qu'à l'accoutumée. En définitive, on assiste à un tome pauvre en révélations, mais qui compense par de nombreuses séquences d'action. Ce quatrième volet de Sprite est très présent à lire, mais n'est pas sans défaut. Entre les faux sacrifices tellement nombreux qu'on n'y croit pas une seconde et l'humour qui tombe souvent à plat, on a bien du mal à se prendre dans le récit. Heureusement que la narration est dynamique, mais on en attend quand même plus pour la suite. Voilà, donc je rappelle que Sprite est paru aux éditions Kaze avec un total de 15 tomes. On va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Mosso Plant de Risk, un logique. Et on reviendra juste après pour une actualité Dragon Ball Z. Donc c'était Risk on Logic avec la chanson Mosso Plant. On passe maintenant à l'actualité Dragon Ball Z. Donc la collection Swatch X Dragon Ball Z se compose de 8 montres Swatch et un set en édition limitée. Chaque montre porte deux facettes du même personnage, une à l'avant et l'autre à l'arrière. Les noms des personnages sont indiqués en anglais sur l'avant de la boucle supérieure et en japonais à l'arrière, et le logo Dragon Ball Z se trouve sur la boucle inférieure. C'est dire le niveau d'intention au détail et de passion qui ont été investis dans cette collaboration. Quant au prix, il reste dans la norme Swatch, c'est-à-dire entre 80 et 140 euros. Donc on a un total de 8 montres différentes, avec notamment donc la Swatch X Shenron, avec Shenron le dragon divan de Dragon Ball Z sur donc cette montre. Pièce de la collection Swatch X DBZ, la Shenron X Swatch est une montre Big Bold avec un bracelet en silicone vert, un imprimé d'écailles de dragon et un cadran noir. Elle possède une boucle noire et deux passants noirs imprimés. Ensuite, on a la Swatch X Goku. Elle présente un boîtier et une lunette noire unie, un bracelet en silicone orange avec un imprimé multicolore et un cadran blanc imprimé en noir avec les deux premiers caractères kanji qui signifient Goku. Le dos de la montre présente le principal mode de transport de Goku, le Kintun, un mystérieux nuage Nimbus. Le tout est livré dans un emballage spécial tout comme les montres suivantes. On a également la Swatch XL. Donc cette montre s'inspire bien évidemment de Cell, le guerrier parfait. Elle présente un boîtier noir uni, une lunette noire avec un imprimé multicolore, un bracelet en silicone vert avec un imprimé multicolore et un cadran blanc avec des chiffres verts. Une incarnation antérieure de Cell avec une queue plus longue inspire le dos de la montre. Ensuite, on a le modèle Vegeta, donc présentant un vert rouge inspiré du scooter avec un imprimé multicolore couvrant le cadran blanc et un imprimé noir de la silhouette de Goku. Vegeta est prêt à lire le niveau de puissance de Goku avec cette montre Dragon Ball Z. Elle présente un boîtier blanc uni avec un imprimé rouge et un bracelet en silicone bleu avec un imprimé multicolore affichant Great Ape au dos. On a la montre Tortue Géniale, donc cette montre capture l'esprit du légendaire maître des arts martiaux Kame Sennin. Elle présente un boîtier blanc uni, un bracelet en silicone orange avec un imprimé multicolore et un cadran blanc avec un imprimé multicolore du maître lui-même. Le dos de la montre s'inspire de sa chemise Aloha. On a le modèle Freezer, donc elle présente un boîtier violet uni avec un imprimé multicolore, un bracelet en silicone blanc avec un imprimé multicolore également, et un cadran blanc et violet qui imite le physique caractéristique de Freezer. Au dos du bracelet, on voit Freezer sous sa forme antérieure, et donc le tout est livré dans un emballage spécial. On a ensuite le modèle Majin Buu, donc elle présente un boîtier noir avec un imprimé jaune, un bracelet en silicone blanc et rose avec un imprimé multicolore et un cadre jaune portant le symbole maléfique connu sous le nom de Majin Mark. Le dos de la montre fait quant à lui un clin d'œil à Innocent Buu et à sa cape violette. On a le modèle Gohan, donc avec un cadran reproduisant le puissant Kamehameha de Gohan. Cette montre Dragon Ball Z a pour but de libérer votre force intérieure. Elle possède un boîtier et un bracelet en silicone violet uni avec un imprimé multicolore et un cadran blanc. Notez la référence à Kid Gohan au dos de la montre. Et il existe aussi un coffret limité qui regroupe toutes les montres, mais ce dernier est en rupture de stock et se retrouve donc à plusieurs milliers d'euros sur eBay & Co. Ce coffret Swatch X Dragon Ball Z Limited Edition est numéroté à 997 exemplaires dans le monde. Il contient 7 montres collector, également numérotées, et 7 Dragon Ball, ainsi que la montre Shenron X Swatch Numbered Edition, qui est uniquement disponible dans ce coffret en édition spéciale. Voilà, on va pouvoir tout de suite écouter une autre chanson, c'est Accelerator de Champagne, et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale. We'll be right back. Donc c'était la chanson Accelerator de Champagne. On va maintenant finir l'émission avec une news musicale concernant le groupe Omega X. Donc courant du mois dernier, plusieurs déclarations avaient tourné sur Twitter présentant que les membres d'Omega X avaient subi des violences physiques et mentales. Suite à la publication de ces éléments, la Spire Entertainment avait publié un communiqué en justifiant une mésentente par rapport aux accomplissements des différentes parties, à savoir le groupe et leurs responsables. Puis une vidéo a été publiée par SBS prouvant que les éléments partagés sur Twitter précédemment étaient vrais. Dans les jours qui avaient suivi, il a été révélé par SBS que le vol de retour des membres depuis Los Angeles avait été annulé par l'agence. Donc d'après l'agence, cette action aurait été faite pour éviter les mélanges de places entre les fans et les membres de l'avion. Pourtant, de nombreuses rumeurs tournent sur le fait que les garçons auraient dû demander l'aide financière de leur famille afin de pouvoir rentrer en Corée du Sud. Après tous ces événements, le groupe a donc ouvert un nouveau compte Instagram afin d'y faire une déclaration. Donc, je cite « Bonjour, nous avons créé ce petit espace de communication car nous voulions remercier les fans qui nous aiment et les personnes qui nous encouragent et nous voulions également vous informer directement de la situation actuelle de notre propre bouche en tant que partie impliquée dans cet incident. Sous la pression de Spire Entertainment, nous, les membres, avons précédemment signé un accord selon lequel si nous postons des publications sur les réseaux sociaux sans consulter l'entreprise, nous devrons en assumer la responsabilité civile et pénale. Par conséquent, nous vous demandons votre compréhension en ce qui concerne le fait que même si nous voulions reprendre la communication avec nos fans dès que possible, nous devions être prudents jusqu'à ce que nous ayons déterminé notre position vis-à-vis de Spire Entertainment. Bien qu'il y ait eu des moments heureux après que nous ayons commencé nos activités de groupe ensemble, nous avons également dû endurer des moments douloureux. De plus, lorsque notre souffrance a récemment été connue du public, nous craignions que tout ce que nous avions accompli jusqu'à présent ne s'évapore et ne parte en fumée. Cependant, nous avons maintenant décidé de mettre nos peurs derrière nous et de rassembler notre courage. Notre groupe a été une deuxième opportunité pour nos 11 membres qui se sont réunis après s'être relevés de moments difficiles de désespoir et avoir refusé d'abandonner nos rêves. La seule chose qui nous a donné la force de ne pas abandonner nos rêves et de relever un nouveau défi, ce sont les fans qui nous attendent, croient en nous et nous encouragent. Grâce à nos fans, nous avons pu endurer les deux dernières années. Il y a eu des jours où nous avons reçu un tel traitement injustifié de la part de notre agence que cela nous a donné envie de pleurer, mais notre seule source de force qui nous a permis de tout endurer était de nous souvenir des acclamations de nos fans et de lire leurs messages de soutien alors que nous essayions de nous endormir. Tout comme nous l'avons fait jusqu'à présent, nous prévoyons de continuer à poursuivre nos rêves jusqu'à la toute fin. Nous nous présenterons à nouveau devant nos fans avec de la bonne musique et des performances. Nos 11 membres qui ont tous le même objectif et nos fans qui partagent notre rêve sont pour nous les choses les plus précieuses au monde et nous ne voulons plus jamais les perdre. Comme de nombreuses personnes s'inquiétaient et nous attendaient, nous nous excusons pour le retard de cette mise à jour. Merci d'avoir lu jusqu'au bout nos sentiments sincères que nous avons eu le courage de partager. Merci. Voilà, donc c'était un petit message de Omega X pour un peu parler de ce qui s'est passé récemment. Du coup, on va pouvoir s'écouter leur chanson Bamos pour terminer l'émission. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, ça sera lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt. But I'm loco. I know I'm so gentle, but I'm loco. Ooh, I just.
그냥 즐겨. We're just having fun.
아직 준비가 안 된 듯해. Baby like ooh, 마치 너단 둘인 것 같이. Baby 더
멈추기를 쉬워 마찬가지. Lady on my own, it's your feet.
Fiesta!